espoir. Le gouvernement congolais a depuis 2 semaines lancé les processus de réforme de l'aménagement du territoire congolais. Selon le ministre de l'aménagement du territoire, urbanisme et habitat, cette réforme comporte 5 axes principaux, parmi lesquels l'élaboration de la politique nationale d'aménagement du territoire. Quelle analyse faire de cette initiative du gouvernement congolais? Nous en parlons avec Jean-René Bongui, le directeur de cabinet du ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat. Bonsoir, monsieur Jean-René Bongui.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Apollinaire Kitenge, il est architecte. Bonsoir, monsieur Apollinaire Kitenge.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Et lui, il va nous rejoindre. Voilà, il vient d'entrer dans ses studios. C'est maître Rifin Louko. Il est chercheur en droits humains. Bonsoir, maître Rifin Louko.
Bonsoir, messieurs les journalistes. Et bonsoir à tous.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
C'est le jeudi 25 juin 2015 que s'est clôturé le séminaire atelier sur le processus de réforme de l'aménagement du territoire en RDC. À l'issue de ces travaux, plusieurs recommandations ont été formulées et le ministre de l'aménagement du territoire, urbanisme et habitat, Omer Igwake Yangembe, s'est dit déterminé de ne ménager aucun effort pour voir les recommandations de ces assises aboutir. On l'écoute dans cet extrait sélectionné par Alain Irong.
Les enjeux d'une démarche d'aménagement du territoire en RDC sont nombreux. Il s'agit parmi le plus pressant du besoin de consolider l'État en l'accompagnant dans son effort de réforme et de théorisation de la gouvernance territoriale par la déconcentration et la décentralisation au regard notamment de l'excentricité géographique de la République démocratique du Congo et d'occupation de terres par la population ainsi que du caractère périphérique de ses activités économiques, le plus porteuse favorise l'écartèlement de l'espace national congolais. La réforme de l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo sera réalisée à travers les 5 axes d'activité prioritaires que voici. L'élaboration de la politique d'aménagement du territoire, l'élaboration de la loi cadre sur l'aménagement du territoire, la conception et l'élaboration des instruments au niveau national, provincial et local, plus précisément les schémas nationaux de l'aménagement du territoire, les plans provinciaux, les plans d'urbanisation et plans locaux de l'aménagement du territoire, la mise en place d'un cadre institutionnel et des concertations pour l'aménagement du territoire, la mobilisation des ressources et des partenariats, une activité transversale et incluse dans tous les autres axes de la réforme de l'aménagement du territoire.
Jean-René Bongui, directeur de cabinet du ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, atelier sur la politique des réformes de l'aménagement du territoire congolais. Qu'est-ce qui a motivé, n'est-ce pas, le gouvernement à organiser cet atelier?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question que vous venez de me poser. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo, c'est un État qui a une grande superficie. Et ce don que Dieu nous a donné, nous devons arriver à le gérer de façon rationnelle et de façon durable. C'est ainsi que, quand on lit, on prend la constitution de l'RDC, quand on lit l'article 203, il est dit que les droits fonciers, miniers, l'aménagement du territoire, le régime des eaux et forêts sont de la compétence concurrente entre le pouvoir central et les provinces. Et quand vous allez un peu plus loin, à l'article 204, on vous dit que l'aménagement du territoire, c'est aussi une matière au niveau des provinces, ça relève du pouvoir provincial. Et quand nous nous référons à la lettre de mission de notre ministère, telle que nous a signée par le Premier ministre, chef du gouvernement, l'activité prioritaire de notre secteur, c'est de doter la République démocratique du Congo d'une politique nationale d'aménagement du territoire, qui est un ensemble de lignes maîtresses, des lignes directrices pour que nous puissions arriver à gérer de façon rationnelle et durable l'espace national. Et le rôle de l'aménagement du territoire dans la gestion de l'espace pour les différentes activités humaines doit donc interpeller la conscience de toute autorité, de toute personne et de toutes les forces vives de la nation. Compte tenu de cette prise de conscience dans la gestion de l'espace pour les différentes activités humaines qui doit interpeller tout le monde, l'autorité politique s'est décidée de mettre en exergue l'aménagement du territoire comme pouvoir d'organisation sociale, économique, environnementale et culturelle auxquelles toutes les formes d'utilisation de l'espace sont assujetties en vue d'un développement durable. C'est dans cette optique que s'inscrit l'organisation par le ministère en charge de l'aménagement du territoire, urbanisme et habitat de cet atelier de lancement du processus de réforme de l'aménagement du territoire qui constituera désormais un fondement pour lever des options afin non seulement d'une bonne appréhension du rôle du ministère à tous les niveaux du pouvoir pour canaliser les efforts nationaux, mais aussi de la mise en œuvre d'une politique de planification spatiale. C'est un peu ça qu'on venait de le dire mon ministre, que je salue. Il a précisé, n'est-ce pas, les options, mais je crois que c'est dans ce cadre que je viens de tracer que s'inscrit l'organisation de cet atelier.
Monsieur Jean-René Bongui, vous dites que la priorité, n'est-ce pas, c'est de doter la RDC d'une politique nationale d'aménagement du territoire. Peut-on dire que à l'issue de cet atelier, la RDC est dotée de cette politique nationale d'aménagement du territoire?
Non, nous n'avons pas encore, la politique n'est pas encore élaborée. Pour y arriver, il y a des étapes, il y a des actions prioritaires. Et cette politique, ça serait tout simplement une sorte de... Vous savez, quand on organisait ce séminaire, on est parti d'abord de Kisangani, où nous avons fait un état des lieux sur la situation de l'aménagement du territoire à travers la République démocratique du Congo. Et puis après, nous nous sommes retrouvés encore à Kisanto pour réfléchir sur les documents d'orientation stratégique. Et la matière est vaste. Il fallait maintenant arriver à pouvoir mettre tout le monde en consensus, arrêter une sorte de chronogramme, c'est-à-dire des activités prioritaires qui doivent être exécutées en amont pour arriver à doter la République démocratique du Congo d'une véritable politique nationale d'aménagement du territoire.
Et quelles sont ces activités prioritaires?
Bon, parmi ces activités prioritaires que nous devons arriver à organiser, à mettre en place, il y a notamment... Il y a notamment, s'il faut bien préciser, en dehors des orientations qui ont été contenues, il y a aussi une feuille de route qui a été adoptée. Et nous allons, il y a le bosse d'une loi cadre sur l'aménagement du territoire. Et c'est ce qui pourra aboutir, n'est-ce pas, à l'élaboration d'une véritable politique. Donc la politique, c'est un peu une façon, c'est sur le plan général, mais dans cette politique-là, n'est-ce pas, il y a ce qu'on peut appeler le schéma national d'aménagement du territoire, ainsi que les autres éléments qui vont accompagner. Et n'oublions pas, c'est que parmi aussi les activités importantes, il y a la mise en place d'un cadre de concertation nationale où seront, n'est-ce pas, où se rencontreront de façon régulière. Et ce cadre de concertation sera mis en place par l'autorité compétente pour que tout les services, ministères, la société civile, tous ceux qui sont concernés, tous ceux qui utilisent, n'est-ce pas, l'espace national pour se retrouver, pour que ça puisse servir de cadre de concertation.
Dans son discours à l'occasion de la cérémonie de clôture de cet atelier, le ministre de l'Aménagement du Territoire a fait savoir que l'élaboration de la politique nationale de l'aménagement du territoire et celle du schéma national de l'aménagement du territoire sont considérées comme des actions prioritaires. Et comment peut-on analyser ces propos du ministre et peut-on dire que c'est aujourd'hui que le gouvernement congolais se réveille et réalise l'importance d'une politique nationale de l'aménagement du territoire?
Merci encore pour cette question. Je dois vous dire que c'est un événement historique. C'est pour la toute première fois dans notre pays qu'on puisse oser de prendre l'aménagement du territoire, que moi je peux considérer comme un taureau, qu'on puisse prendre le taureau par les cornes. On ne peut pas aujourd'hui penser faire de la RDC une puissance régionale sans que nous puissions arriver à planifier notre développement. On ne peut jamais atteindre un développement durable sans qu'on puisse arriver, n'est-ce pas, à doter la RDC d'une politique nationale d'aménagement du territoire. Donc il y a des actions prioritaires qui doivent être menées, comme son Excellence le ministre venait de le souligner. Et je dois vous dire que c'est une activité importante et c'est pour la toute première fois que cela se fasse en République démocratique du Congo. Et puis n'oubliez pas que quand nous étions à Kisangani, ici même à Kisantou, nous avons essayé de faire un état des lieux de l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo, et nous avons fait un constat qui est un peu négatif, c'est que les textes sont dépassés, chacun se comporte comme il veut, il n'y a pas une affectation préalable de sol, et quand nous recevons même les investisseurs qui arrivent, on nous demande souvent la première question, quels sont nos plans d'aménagement.
Et les textes qui existent actuellement, c'est un texte qui date des 57
de 1957, avant la colonisation. C'est ainsi qu'au niveau du ministère, sous la direction du ministre Omer Eguake, nous avions procédé à un premier travail. Puisque vous savez, dans ce secteur, il y a des réformes importantes qui sont en train de s'opérer. Et nous avions publié le recueil des textes légaux sur l'état réglementaire de l'urbanisme.
Merci Apollinaire Kitenge. Vous êtes architecte. Et comment vous analysez cette initiative du gouvernement congolais qui vise à doter les pays d'un plan d'aménagement du territoire?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est quelque chose qui est très important. Si de ce que le ministère de l'Urbanisme vient de faire, de cet atelier sur la réforme de l'urbanisme et territoire dans notre pays, c'est une action louable qu'il faudra aussi sauter là-dessus et à féliciter ceux qui ont pu prendre les taureaux par les cornes pour l'organiser. Ça ne peut que aussi mettre dans une situation confortable les architectes ou les urbanistes qui sont dans le secteur et pour encourager ces initiatives qui sont pratiquement louables. Mais il y a beaucoup aussi d'éléments qui peuvent entrer en jeu, qui nous pousse à dire que c'est un problème qui est tellement géant et colossal que le ministère seul ne sera pas à mesure de résoudre tout le problème. Mais il faut partir quelque part. Il faut avoir d'abord un départ.
Et à part le ministère, quels sont les autres acteurs?
Monsieur le journaliste, il y a compénétration de beaucoup d'acteurs. L'acteur étatique qui est principal, c'est le gouvernement. Mais le gouvernement doit aussi inféoder à certains secteurs, les secteurs privés, les secteurs aussi scientifiques, hein, on pourrait dire. Mais il y aura aussi compénétration des différents ministères. Parce que la gestion du foncier ne revient pas seulement au ministère de l'Urbanisme. D'ailleurs, les textes réglementaires l'indiquent. Il y a un autre ministère qui a la gestion du foncier. Et il y a un autre ministère de l'urbanisme qui, maintenant, traite les espaces. Or, c'est un ministère, ce sont des ministères qui pouvaient être ensemble, qui travaillent en harmonie pour celui qui à les fonciers, et celui qui gère aussi ces fonciers, devait être en compénétration. Et il ne s'arrête pas seulement à ces deux ministères, il y en a aussi d'autres. Vous avez aussi le ministère de l'énergie. J'ai épinglé au moins une dizaine. Il y a aussi le ministère de l'énergie qui pourrait être aussi à cela. Il y a aussi le ministère des UTPR. Vous voyez, l'urbanisme peut aussi donner une architecture urbanistique, mais les équipements qui vont être érigés sur ce sol, ce sont des équipements qui nécessitent au moins des études préalables et avoir l'écritus, comme on appelle le permis de construire, par le ministère des UTPR.
Au-delà de tout ça, il y a aussi la population qui est parmi les acteurs principaux, n'est-ce pas? Parce que pour qu'une telle réforme puisse aboutir, il faut l'implication de cette population à la sensibilisant, n'est-ce pas?
Oui, je voudrais en arriver là-bas, mais la liste n'est pas exhaustive, bien sûr. En dehors de la population, il y a aussi le ministère des Plans. À part le ministère des Plans, il y a aussi le ministère de Budget. Il y a aussi le ministère des Finances qui peuvent entrer parce que quand on fait le chiffrage de tous ceux qui...
En effet, c'est tout le gouvernement qui est...
Bon, c'est tout le gouvernement. Pour venir à la population, comme je vous dis, il y a aussi le ministère des Affaires Sociales. Parce que vous voyez, aujourd'hui, quand on donne un schéma directeur, comme le directeur de cabinet l'a pu souligner, quand les universités viennent, ils demandent un plan directeur d'urbanisme ou bien votre plan foncier de ce qui pourra être attribué aux investisseurs. Vous voyez, il y a une difficulté pour leur donner. En dehors de tout ça, il y a aussi le ministère de l'Intérieur pour arriver là-bas. Vous savez aussi, nous avons des zones de défense où on ne peut pas faire tout ce qu'il faut. Il y a aussi le ministère de l'Environnement. Vous savez, nous avons des parcs. Nous avons des espaces aussi à protéger où on ne peut pas donner à un investisseur n'importe quel espace pour faire ce qu'il faut. ce sont des éléments qui entrent en jeu dans ces choses. Donc, c'est un monstre, pas pour dire un monstre à plusieurs têtes, mais c'est quelque chose qui paraît assez grotesque.
Mais c'est pour l'une d'ailleurs, Kitenge, vous êtes architecte, l'émission est aussi pédagogique. Hein?
Bien sûr.
Alors, le schéma national d'aménagement du territoire sur lequel on a réfléchi dans cet atelier, est-ce qu'il est différent du plan cadastral?
Il est différent, mais il s'est joint aussi. Le plan cadastral s'est joint au plan d'aménagement, comme vous dites là. Le plan cadastral n'est qu'une partie, hein, qu'on dit comme on fait le lotissement. C'est un lot. Mais le plan cadastral permet aussi à tracer les grandes lignes, hein, qui peut permettre à diversifier certaines zones. Quelles sont ces zones qui sont d'habitation, les zones industrielles, mais les schémas, les plans directeurs, ça prend le tout. Et les habitations, et les industries, et les équipements, et tout ça, ça fait un ensemble. Voilà.
Le directeur de cabinet, M. Bongui, dans une interview qu'il avait accordée à Radio Kapi, c'est le journaliste Emmanuel Limbanda qui lui posait des questions. Il avait affirmé que depuis 1957, nous n'avons pas réussi à mettre en place un nouveau code d'urbanisme. Et le code qui régit l'urbanisme actuellement est obsolète. Est-ce qu'on ne devait pas commencer par là, hein? C'est bien des réfléchir sur un plan d'urbanisation, mais s'il n'y a pas un texte de référence, un texte de base, n'est-ce pas, qui a risque, n'est-ce pas, d'établir un plan et qui ne tient pas compte de certaines normes.
Et vous savez, monsieur le journaliste, les textes parfois se trouvent en conflit avec les acteurs. Parce que des fois, il y a des problèmes. Je viens de vous dire ici, vous avez le ministère des Affaires foncières qui gère les fonciers dans ses attributions, mais vous avez un autre ministère qui vous donne les titres ou les permis pour ériger. Vous voyez, il y a déjà un problème. Il faudra peut-être mettre un cadre de concertation, comme a dit les députés de cabinet, qui pourra aider aussi à cela. Mais l'État aussi a des organes techniques qui pourra aussi aider à faire cela. Vous savez, il y a un organe technique, par exemple, qu'on appelle le BAI, le Bureau d'études d'aménagement urbain, qui a été créé en 1973. Un remplacement avec le Bureau français d'urbanisme qui était dans notre pays depuis 1964. Vous voyez, c'est un organe technique qui pourra aussi appuyer l'État dans cette démarche de permettre à ce qu'on puisse faire des textes avec des juristes, bien sûr. Vous savez aussi, il y avait un problème que dans l'État, il y a aussi les chefs coutumiers qui ont aussi des espaces de terre qui gèrent, qui les redeviennent selon la loi, qui les reconnaissent aussi une certaine autorité. Voilà, il faudra qu'il y ait aussi des textes qui régissent tous ces espaces et qui pourra aider aussi les ministères à élaborer un plan ou un schéma directeur.
Mais ça pour le dire, Kitenge, vous en tant qu'architecte, lorsque vous concevez un plan quelconque, avez-vous l'habitude de vous référer au plan cadastral dont nous venons de parler?
Bon, je reviens encore au plan cadastral. Quand l'architecte conçoit, ça dépend de quel type de conception. Si c'est un équipement individuel ou si c'est un équipement collectif, ou bien ce qu'on appelle les unités de voisinage. Quand on a ça, on se réfère toujours. D'ailleurs, un architecte attitré est censé d'abord connaître les sites et les lieux et ces sites destinés à quoi. Mais si les affaires foncières a fait un lotissement en disant que ça, ce sont des espaces pour les habitations. Un architecte qui a été approché soit par l'État, soit par un particulier, est censé concevoir selon les normes qui sont en application avec l'État.
Et il est censé.
Il est censé.
Ce qui n'est pas souvent le cas.
Non, c'est le cas. Il est censé connaître. Ça dépend dans cette profession. Maintenant, il y a du tout venant. Vous trouvez quelqu'un qui réparait les lits, il est devenu architecte. Quelqu'un qui vendait des briques, il est devenu architecte. Même quelqu'un qui a fourni les ampoules à un bâtiment, il est devenu aussi architecte. Vous les trouvez, c'est pour toujours, il y a du tout venant.
Donc, c'est à la base de toutes les constructions anarchiques dont on parle actuellement.
Bon, c'est aussi une des bases, hein, mais si vous passez au ministère au bâtiment civil, au niveau de ZTPR, vous trouvez toujours certains architectes, avant d'avoir même le construit, il doit se référer au texte et déposer son dossier pour avoir un permis de bâtir. Voilà.
Merci, Maître Rifin Louko, chercheur en droits humains. Comment vous analysez cette réforme initiée par le gouvernement?
Bon, encore une autre réforme, et également tardive. Bon, le décor de cet état des choses commence par vous dire que la loi actuelle sur l'urbanisme et habitants, la loi actuelle sur l'urbanisme et habitants, date des années 50. Hier, c'était la loi actuelle sur les inhumations au Congo, date des années 50. La loi actuelle sur Je peux citer comme ça presque toutes les lois essentielles qui concernent la population datent d'avant l'indépendance. Alors, ça repose encore le problème du rôle de nos différentes institutions législatives. En tout cas, pour peu que nous pouvions constater aujourd'hui, nous l'avions déjà stigmatisé, la plupart des textes actuels et récents sont, j'ai dit la plupart, initiés par des agences des Nations Unies et vite, ils sont adoptés. Les textes qui concernent la population, c'est rare que celle-ci puisse passer et aboutir lorsqu'il n'y a pas une agence derrière. Alors, j'aurais aimé que le ministère puisse déjà nous soumettre un projet de loi qui va renverser, tu vois, un écart de 50 ans. Avec tout ce qui, maintenant, les Belges nous ont laissé, et je vais donner l'historique, les Belges nous ont donné, et là je parle uniquement du secteur dont le DIRCAB et son excellence ont la charge, l'urbanisme, ça veut dire l'aménagement dans les villes, les milieux urbains, et toutes les autres cités à vocation à devenir villes. On en a déjà désigné plusieurs ici. Je pourrais vous les citer, Mweneditu, Beni, Butembo, qui jadis n'étaient pas des villes, je peux citer, sur l'étendue du territoire national, avec le problème des élections, on est en train de vouloir revenir en arrière. Toutes ces villes-là, ou bien toutes ces cités à vocation de devenir urbaines, sont sous la responsabilité, en ce qui concerne l'aménagement du ministère de l'urbanisme. Alors, des cinquantaines à aujourd'hui, la législation n'a pas suivi. Or, les Belges nous ont légué la plupart de nos villes, on comptait les quelques bâtisses à étage. On comptait. Et à Kinshasa, je peux compter. Sozakom n'était pas à l'époque coloniale. Ces galeries présidentielles n'existaient pas à l'époque coloniale. C'était quelques bâtisses sur le boulevard ici, du 30 juin. Je peux aller à Kisangani, je peux aller à Lumbashi, je peux citer. Maintenant, aujourd'hui, nous avons des bâtisses partout. 10 étages, 20 étages, 50 étages, bon, 50 peut-être pas encore, mais en tout cas, si vous prenez CCIZ, hier CCIZ, aujourd'hui Hôtel du Fleuve, si vous prenez les bâtisses qui sont à côté de Sosimate, ce sont des bâtisses qu'on appelle presque gratte-ciels. L'urbanisation actuelle, donc ce qu'on appelle les standards internationaux, ce n'est plus comme les maisons qu'on nous a léguées de taille basse. Les maisons, par exemple, pour bâtir un immeuble comme galerie présidentielle, il faut avoir au moins 3-4 niveaux uniquement consacrés à quoi ? Au garage des véhicules. Alors, toutes ces bâtisses qui sont construites ou construites sur la chaussée principale, c'est-à-dire le boulevard et consort, sans garage. Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que tous les exploitants de ces bâtisses garent sur la chaussée principale. Et c'est parmi les causes des embouteillages.
D'où la nécessité de...
Rien à faire là-dedans. Il faut absolument que le ministère de l'urbanisme puisse aller au-delà de ce qu'il est en train de proposer aujourd'hui.
Le directeur de cabinet a évoqué l'ébauche, n'est-ce pas, d'une loi cadre de l'urbanisme à Abidjan.
Nous allons l'assurer que nous allons tous y soutenir ça. Pour la raison que les défauts de l'intervention du ministère de l'urbanisme et habitat dans son secteur a comme conséquence principale les érosions dans la plupart de nos grandes villes. Kinshasa, numéro 1. Mbujimayi suit. Après Mbujimayi, Boma. Boma, Bukavu, Uvira, Kalemi. Les villes qui sont mitraillées continuellement par les érosions. Et ensuite, en dehors des érosions, il y a des acteurs nouveaux qui constatent cet état des choses de la faible intervention de l'urbanisme dans le secteur. Ces acteurs-là s'appellent qui? Les commissionnaires. Les commissionnaires de toutes sortes. Et vous savez ce qu'ils ont inventé pour détruire davantage ce qui était déjà presque effondré? C'est sol et morcellement. Maintenant ce sont les commissionnaires qui... Bon, je m'excuse s'ils nous écoutent par-ci, par-là. Donc, je suis désolé. Les morcellements, la première ville victime des morcellements, c'est Kinshasa et Bukavu. Donc, vous voyez déjà construire 10 sur 15, 12 sur 14. Donc,
c'est quel genre de vie lorsque ces genres de personnes sont autorisées à construire dans ces conditions-là, au-delà de toutes les normes urbanistiques.
Mais avocat, vous-même, les maisons de l'État ont été morcelées.
Je dis, c'est la deuxième ville victime, donc c'est comme si c'est une rébellion de morcellement qui a détruit la ville. Donc nous considérons donc que la faiblesse de l'intervention du ministère de l'Humanisme et Habitat, et nous louons donc ces actions-là. Si vous prenez par exemple les quartiers Salongo, si vous prenez
à Kinshasa,
si vous prenez le quartier Badiani ou le Cap Badiani, Cité Mamobutu, Cité Verte, Motel Fikini, ça c'est la Deuxième République. Donc ce n'est pas à l'époque où la Deuxième République a décidé d'urbaniser et de construire des logements, n'est-ce pas, pour la population. Et vous vous imaginez, depuis dans ces quartiers-là, il n'y a pas d'érosion. Sauf peut-être dans les quartiers de Baradingi ou quelque part. Donc, bref, je voulais juste insister sur le fait que l'absence plus ou moins totale du ministère de l'urbanisme dans le secteur qui est le sien a entraîné que presque toutes les grandes villes du pays soient presque abandonnées et dans l'état où ils sont aujourd'hui.
Merci Jean-René Bongui. Il y a une question qui vous est adressée. Hein. Elle vient de Bukavu, au sud de Kivu.
Robert Rome de Bukavu, au sud de Kivu. Je pense que cette initiative du gouvernement d'élaborer une politique d'aménagement du territoire n'est pas en soi mauvaise. Cependant, il s'avère que beaucoup de politiques déjà élaborées par le gouvernement dans bien des secteurs de la vie nationale ont échoué. Quelle garantie le gouvernement offre-t-il à l'opinion pour que cette politique d'aménagement du territoire ne subisse pas le même sort que les autres politiques?
Votre question.
Merci. Je crois que si vous permettez, avant que je réponde à la question qui vient de Bukavu, que je puisse apaiser mon co-débatteur qui est à ma droite pour lui dire qu'en ce qui concerne le code de l'urbanisme, il y a un travail important, il y a un travail important qui s'est fait au niveau du ministère. Nous avons déjà terminé, par rapport à notre lettre de mission, à élaborer les termes de référence pour l'élaboration d'un nouveau code de l'urbanisme. Et nous avons même déjà produit le recueil des textes légaux sur l'état réglementaire de l'urbanisme que nous avions présenté, que son Excellence Monsieur le Ministre a présenté lors de l'atelier qui a eu lieu au fleuve Congo-Tel. Alors, ce qui concerne le problème de construction qu'il a évoqué dans la ville de Kinshasa, je crois que vous serez peut-être dans les jours qui viennent, on serait un peu surpris de certaines activités que nous allons faire qui n'ont jamais été effectuées dans le passé. C'est notamment un urbanisme de proximité. C'est-à-dire que nous allons dépêcher nos équipes et vous allez voir, surtout à travers la ville de Kinshasa, nous commençons par la ville de Kinshasa, où vous allez voir nos agents de l'urbanisme, des inspecteurs de l'urbanisme qui vont sillonner la ville, pas à travers les véhicules, nous n'avons pas suffisamment de moyens, mais à travers des motos pour arriver à contrôler, n'est-ce pas, les différentes constructions. Et maintenant, dans l'arrêté qui a été signé en ce qui concerne la délivrance du permis de construire, quand vous délivrez maintenant un permis de construire, à la fin des travaux, il y a ce qu'on appelle, on doit vous délivrer un certificat de conformité pour voir si réellement le constructeur à suivre, n'est-ce pas? Parce que souvent, c'est quoi? Le pire, c'est quoi? La personne introduit sa demande pour vous dire, voilà, je vais construire R+5, R+6. Mais quand vous allez lui donner le permis, la personne va tricher. Et vous allez voir que le bâtiment initialement prévu pour 6 niveaux, vous êtes à 10 à 15. Donc,
c'est parce qu'il n'y a pas de suivi de la part.
C'est ça, justement. C'est ça. La nouvelle politique du ministère, ayant tenu compte, ayant tiré les leçons du passé, nos inspecteurs vont descendre de ce terrain. Et c'est une toute première en République démocratique du Congo. Mais en même temps aussi, il y a un problème de conscientisation de la population. Nous devons arriver à conscientiser notre population. C'est pour son intérêt, mais vous allez voir qu'il y a des gens qui précèdent, qui mettent l'État devant le fait accompli, qui vont construire à côté des ravins, à côté des rivières, et quand il va pleuvoir, les maisons partent. C'est à ce moment-là qu'on fait appel au gouvernement. Alors que quand on allait construire, on n'a pas demandé l'autorisation.
Et l'État voit ces gens commencer leurs travaux, ils achèvent leur chantier, l'État ne réagit pas.
Non, l'État, dire que l'État ne réagit pas, l'État toujours réagit. L'État, dire que l'État ne fait rien, l'État toujours fait quelque chose. Mais nous devons arriver à conscientiser, n'est-ce pas?
Par rapport à la question,
qui a dit que l'initiative n'est pas mauvaise, alors on va voir si ça ne va pas sombrer comme toutes les autres politiques. Non, c'est un problème d'engagement. C'est un problème de volonté politique. Et la volonté politique, nous l'avons. Il y a cette volonté politique, il y a cette détermination du ministère. Vous savez que maintenant, autrefois, les gens, le ministère de l'aménagement du territoire, les gens croyaient que bon, c'était un ministère qui dormait, c'est ce qu'il faisait. Mais actuellement, ça attire. Vous savez, depuis qu'on a tenu la télé, qu'on voyait les réactions à travers l'Afrique, à travers le monde, à travers le Congo. Mais vous serez étonné, vous serez surpris. Donc c'est quelque chose de nouveau. Vous savez, tout dépend de l'engagement politique, tout dépend de la volonté politique. Merci.
Merci, monsieur Apollinaire Kitenge. Il y a une question qui vous est aussi adressée. Elle vient aussi, une fois de plus, de Bukavu, Sud Kivu.
Je me demande de quel aménagement ça fait, parce qu'il y a ici chez nous le service de statistiques à bien organiser et le nombre de la population n'est pas bien connu, réellement connu.
Oui, je ne sais pas si vous avez compris.
Bon, un tout petit peu.
Il dit, je me demande de quel genre d'aménagement du territoire s'agit-il dans un pays dont le nombre réel de la population est ignoré, faute d'un service de statistiques organisé. Voilà.
Avant de répondre à notre auditeur, je voudrais un peu prendre un avis contraire à mes deux co-débatteurs, à Maître Loco et au DIRCAB, pour peut-être éclairer aussi notre auditeur que les enjeux d'urbanisme ou les réformes ne doivent pas se limiter dans un cadre purement habitat. Hein, comme Maître Loco a dit, ça se limite aux maisons et aux bâtiments. L'urbanisme, c'est quelque chose qui est global et général. Ça englobe les tout. Vous avez, quand on fait le plan particulier d'aménagement ou bien on fait le type de schéma directeur, on essaie un peu de zonifier aussi certains espaces où vous avez parfois des zones industrielles, vous avez les équipements collectifs, vous avez aussi des espaces environnementaux protégés, vous avez des aires aussi de centralité. Tout ça, ça entre en jeu. Il y a aussi la variée réseau divers. Vous avez aussi des routes. Vous avez aussi l'eau et assainissement. Vous avez aussi l'énergie. Tout ça, ça entre dans le cadre de l'urbanisme. Vous avez aussi l'homme lui-même qui est aussi, réutilisateur de ces espaces. Hein? C'est pour dire que on ne pourra pas seulement se limiter en termes d'équipements comme bâtiments ou bien maisons d'habitation. Pour aussi prendre un autre avis concernant ce que le DIRCAB vient de dire, qu'il y aura des inspecteurs qui vont descendre sur le terrain, moi je voudrais peut-être lui demander aussi de bien étudier qu'il n'y ait pas la politique des deux poids deux mesures. Vous savez, il y a aussi des textes dans la société des architectes ou bien ceux qui sont dans le secteur des bâtiments. Il y a des bâtiments que vous pouvez voir qui ont été bien construits avec une façade, avec tout ça, mais vous trouverez que ces gens-là n'ont pas été en conformité avec les textes réglementaires de l'État. Il ne faut pas aller aussi tourmenter les autres qui ont l'État a donné des terres pour construire ou la ville aussi a donné les permis. Ces gens-là soient aussi tracassés, mais c'est contrôlé.
Malheureusement,
aussi.
C'est ce qui se passe souvent.
C'est ce qui se passe.
Voilà. Les mêmes services publics qui autorisent la construction des maisons, c'est le même service qui vient encore démolir ces maisons.
Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Mais pour notre ami de Bukavu,
le problème des statistiques.
Ça, c'est un problème sérieux. Je crois que Maître Loco vient de dire, c'est rêver tardif de l'État. C'est même le ministère qui entre dans ce jeu-là, je crois qu'il sortira, qu'il n'aura plus de cheveux sur la tête. Pourquoi ? Parce que le problème est tellement énorme qu'il y aura du mal à se faire. Mais nous l'encourageons. Il faut partir quelque part. Nous avons vu les actions que le gouvernement est en train de faire, qui sont aussi louables, même si on pourra avoir un avis aussi contrôle sur certaines actions. Mais on essaie un peu de les encourager dans ce sens. Mais notre ami doit savoir que les statistiques ne peuvent se faire que par l'État lui-même, qui est le responsable de la population au pouvoir. Si on a 1 million d'habitants et si on a aussi les besoins en logement ou bien un besoin d'équipement, c'est dans ce sens-là qu'on peut faire aussi des études en amont pour voir que nous avons un tel nombre de populations et cette population a besoin des écoles, a besoin des infrastructures routières, a besoin des espaces, a besoin des espaces des terrains collectifs. Voilà, tout ça pour être en jeu et pour arriver à une fin utile.
Maître Ruffin Louko, il y a aussi une question pour vous qui vient de Lubumbashi au Katanga.
Bruno Kalunga depuis Lubumbashi au Katanga. L'aménagement du territoire demande une expertise conséquente avec beaucoup de moyens que le gouvernement doit décaisser pour rendre nos petits recoins plus praticables et viables. Est-il vraiment prioritaire de se lancer dans ce genre de dépenses publiques? Ne voyez-vous pas que ce genre de programmes vont nous perturber avec le fléau du découpage et les élections générales? Car les Congolais ont besoin d'améliorer son appareil politique et non son environnement parce qu'ils avaient beaucoup attendu cela et rien n'était fait.
Oui, Maître Ruffin Loco.
Il n'est jamais trop tard de faire du bien. Le retard d'ailleurs dans ces domaines est énorme. Je vais également rencontrer le collègue sur ce plateau. L'aménagement du territoire ou l'urbanisme, c'est énorme. C'est énorme. Et nous n'avons pas assez de temps pour en parler d'une manière complète. La faiblesse de l'intervention de l'État entraînait que les zones qui étaient absolument interdites et, comme vous l'avez dit, que nous limitons à ce niveau-là, habitation résidentielle, exploitation industrielle, exercice militaire, exploitation sanitaire, l'administration pénitentiaire, l'exploitation ferroviaire et consommation. Ça, ce sont des zones en principe, selon l'urbanisme, selon tous les textes qui sont ici, ne devaient pas être approchées par aucune présence humaine, autre que l'exploitation. J'ai cité là, ferroviaire, maritime, militaire, exercice de culte, les prisons. Ça, tout ça, c'est organisé dans l'urbanisme. Mais aujourd'hui, vous prenez la ville de Goma. Pour atterrir, vous devez dépasser presque toute une commune. Au-dessus de la ville. L'aéroport de Ndolo. La prison centrale de Makala. Donc, c'est vaille que vaille, prison partout. La prison militaire de haute sécurité de Ndolo. Donc, je peux citer là, la faiblesse de l'intervention de l'État a fait que ça se chevauche maintenant partout. Ça se chevauche. Regardez par exemple notre rail, dans la ville de Kinshasa. Je ne sais plus quel est le commentaire que nous pouvons faire parce que le chevauchement est total entre le rail et les habitations. Or, le rail, avec le train, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Et chaque fois, vous savez que non, c'est toujours le drame. Donc, ce genre de choses, l'urbanisme aurait dû déjà éviter ça. Donc, par rapport à la question, de l'auditeur de Lumbashi qui dit qu'il faut une expertise qualifiée, des moyens conséquents, il a raison. Et la raison, mais ça ne va pas nous empêcher de commencer à améliorer, n'est-ce pas, ce qui doit l'être pour protéger notre population. Les universités doivent être, par exemple, à l'université de Kinshasa, avec notre site nucléaire, avec tout ce qu'il y a comme menace d'érosion. Il faut absolument que l'urbanisme puisse intervenir. Et lorsque le DICAB mentionne quelque chose d'extraordinaire, les certificats de conformité, DICAB, il faut vraiment que vous alliez très rapidement. Il faut que vous alliez très rapidement, parce que nous avons un cas dans la ville à Kinshasa où un immeuble a été, le marché a été, n'est-ce pas, adjugé pour 10 étages. On a failli inaugurer avec 9 ou 8 étages. Donc, un ou deux étages sont passés entre le mail. Vous étiez au urbanisme pour suivre ça. C'est important. Je sais que j'ai appris que c'est l'urbanisme qui aurait été parmi les services qui ont découvert la chose. Alors, pour dire tout simplement que. Nous réclamons une forte intervention du ministère de l'urbanisme pour que tous ceux qui prétendent construire des étages obtiennent l'autorisation et ensuite ces 5.
Voilà, parce qu'il y a unanimité sur le fait que la réforme, elle est importante. Qu'est-ce qu'il faut pour que cette réforme puisse aboutir?
En tout cas comme il l'a dit, d'abord, ça n'appartient plus au ministère de l'urbanisme. Le ministère de l'urbanisme est tout petit pour faire ça tout seul. Il faut absolument que le Parlement puisse entrer dans ce rôle-là pour soutenir le ministère de l'urbanisme. Je considère que, vu le retard, vu l'accumulation, il faut absolument que le Parlement et d'autres institutions puissent entrer. Et puis, il ne faut pas oublier que dans l'urbanisme, parmi ceux qui ajoutent au désordre le désordre, c'est les cours et tribunaux. Par leurs différentes interventions, en ce qui concerne les jugements quelconques qui autorisent ceci, qui consacrent cela.
Monsieur Jean-René Bongui, qu'est-ce qu'il faut pour que cette réforme, n'est-ce pas, qui vient d'être initiée par le gouvernement, puisse réussir?
Pour que la réforme puisse réussir, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'abord un problème de volonté politique. Et cette volonté politique a été manifestée par le lancement du processus de la réforme. C'est un engagement que le gouvernement a pris, que le ministère a pris pour réussir cette réforme. Mais il y a aussi d'autres intervenants qui doivent accompagner la réforme. Il y a la société civile. qui doit nous accompagner. Notamment, nous avons la société des architectes en RDC, dirigée par M. Claudien Moulimiloa. Je crois que cette société des architectes doit nous accompagner. La population elle-même aussi doit nous accompagner. C'est ainsi que vous avez vu pendant les séminaires ateliers, nous avions un souci, un plus grand nombre. C'est pour réunir un plus grand nombre, un consensus autour de la réforme. Et on doit arriver à mener des actions de conscientisation. Nous avons suivi tout à l'heure la question de l'auditeur de Bukavu qui a dit non, voilà, la priorité c'est d'abord en ce qui concerne le domaine politique et le reste viendra. Mais non, mais en attendant qu'on puisse atteindre sur le plan politique, dans l'entretemps, l'environnement dans lequel vous vivez, il est mauvais. On doit l'assainir. On doit assainir l'environnement. Sinon, alors, ça va entraîner des maladies, ça va entraîner d'autres conséquences qui seront difficiles à gérer. Donc, il y a un peu tous ces intervenants-là. Et ça demande une volonté collective. La volonté de nous tous pour que nous puissions réussir cette réforme.
Vous parlez de la volonté politique qui est, selon vous, déjà manifeste. Vous parlez aussi de la société civile qui doit vous accompagner, notamment les architectes. Vous parlez aussi de la population qui doit être sensibilisée, mais vous n'avez pas évoqué les facteurs financiers, hein, l'argent, c'est
oui,
les moyens financiers.
Oui, facteurs financiers, l'argent. Je crois que cette question aussi nous a été posée pendant le séminaire atelier. Vous savez, quand un gouvernement travaille, il y a deux types d'actions. Il y a des actions qu'on peut aussi mener parfois sans argent. Il y a des actions qui nécessitent nécessairement de l'argent. Et je crois que pour, en ce qui concerne les moyens, les premiers moyens sur lesquels nous devons compter, ce sont les moyens propres, c'est-à-dire les moyens du gouvernement. C'est que le gouvernement va mettre à la disposition de notre ministère pour que nous puissions arriver à réussir cette réforme. Et deuxièmement aussi, vous savez que nous sommes des pays du tiers-monde, nous comptons aussi sur l'accompagnement des bailleurs de fonds, notamment nos partenaires qui ont pris l'engagement de nous accompagner tout au long du processus, notamment l'USAID, le WRI, il y a le PNUD, il y a aussi, je crois, la Norvège, ainsi que d'autres États qui ont accepté de pouvoir nous accompagner. Donc, il y a quand même, comme vous voyez, les actions prioritaires que nous avons programmées, il y aura même une table ronde des bailleurs de fonds, c'est-à-dire c'est là où les différents bailleurs de fonds vont prendre l'engagement de soutenir le ministère pour la réussite de cette action.
Monsieur Jean-René Bongui, on n'a plus assez de temps. Est-ce que vous pouvez déjà commencer à conclure?
Ce que moi je peux conclure, c'est que toute activité commence toujours quelque part. Et nous n'allons pas croiser les bras. Et nous estimons que l'initiative du ministère, c'est une première en République démocratique du Congo. Et ça constitue en même temps un espoir pour que la RDC puisse atteindre nécessairement un développement durable d'ici l'an 2030.
Merci, monsieur Apollinaire Kitenge. Que faut-il pour que cette réforme puisse réussir?
Pour que cette réforme puisse réussir, je crois que pour emboîter les décisions des cabinets, qui a dit qu'il faudra aussi il faudra de la volonté politique. Mais la volonté politique n'y suffit pas seulement. Mais il faudra aussi de la responsabilité de ceux qui gèrent l'appareil de l'État. C'est-à-dire qu'on dit la responsabilité du secteur étatique. Dans quel sens? C'est dans le sens où, quand on initie un projet, on fait des lois, on fait des textes, que ça arrive à terme, qu'on ait l'applicabilité. Il ne faudra pas que des textes restent dans des tiroirs comme des feuilles de choux, qui n'auront pas pratiquement la faisabilité.
Et puis, l'implication de vous, architectes.
Bon, l'implication des architectes, il est là, ils sont capables de le faire, mais nous demanderons aussi à l'État, comme le DECAB est là, qu'ils soient aussi les porteurs de la nouvelle, en disant que les architectes ont aussi besoin d'avoir un texte et des lois qui régissent cette profession.
Mais ça
en revient aussi l'ordre des architectes.
Vous avez suivi Maître Réfin Loukou qui évoque des espaces qui ne doivent pas être habités, qui sont habités aujourd'hui, ouais. Et avec ces plans nationaux d'aménagement qu'on est en train d'élaborer, n'est-ce pas, et cette réalité sur le terrain, comment les choses vont se passer? Est-ce qu'on va adapter ces plans à la réalité du terrain? Ça va se passer comment?
On peut toutefois les réadapter. On peut faire aussi la politique de cartage. On peut rayer les villes et puis les reconstruire. Il y a aussi cette politique qui fait en sorte que les villes, on les crée, les routes, on les crée. On peut aussi faire d'autres villes en faisant des pôles, comme on a fait à Abuja, comme on a fait Malabodeux, comme on est tenté de faire l'Égypte en Égypte aussi.
Merci. Voilà. Maître Riffin Loukou, votre conclusion.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que, d'abord, principalement, il faut interdire le morcellement. Interdire le morcellement. Et il faut qu'une loi dise combien de mètres carrés, et appelle ça des arts, que toute personne dans une ville doit occuper. Combien de mètres carrés? Ensuite, il faut réformer la législation. Il faut réformer la législation. Et notamment, que la législation dise quelles sont les zones à interdiction de construction autre que l'activité concernée. Il faut qu'une loi puisse consacrer ça et ça va davantage évoluer les choses.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Mimi Kindou qui était à la technique. Merci à Alain Irung, Kelly Kouté, ainsi que Berry Franklin Ikaka de l'équipe Dialogue entre Congolais, sous la supervision de Martin Seboujangwe, devant ce micro Guy Maté. Merci et bonne suite des programmes sur Radio Capi.